Bienvenue à tous dans ce magazine de l'environnement. Nous avons la joie de recevoir Madame Thoron Florence. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez de la structure IMSRN. Alors, qu'est-ce que c'est et quel est votre rôle au sein de cet organisme ?
Donc, c'est un bureau d'études géotechniques et ça signifie ingénierie des mouvements des sols et risques naturels. Et moi, je suis chargée d'études, je réalise des études sur le sol, en particulier pour les constructions de maisons, mais aussi dans d'autres cadres.
Voilà, avec vous, nous aurons une thématique particulière ce matin que vous avez choisie.
Oui, aujourd'hui, nous allons parler des mouvements de sol en général et plus particulièrement de ceux qu'on peut rencontrer en Guadeloupe et qui peuvent nous affecter.
Alors, on commencera par le commencement. Qu'est-ce que vous appelez un mouvement de terrain ?
Alors, un mouvement de terrain, c'est un déplacement plus ou moins brutal de sol et sous-sol. Et on va les distinguer selon la vitesse de propagation. Donc, on a des mouvements lents. Dans ces mouvements lents, on va avoir une déformation progressive des terrains. Ça peut être des affaissements, des tassements. C'est par exemple ce qui provoque le fait que la tour de Pise soit inclinée maintenant. Les sols se sont tassés sous la tour de Pise et elle penche d'un côté. Et on a aussi dans ces mouvements lents les glissements. Alors les glissements, ils se produisent généralement quand les sols sont saturés en eau et ils peuvent mobiliser des volumes très importants de terrain. On a eu des glissements en métropole qui ont mobilisé des dizaines et des dizaines de milliers, enfin de mètres cubes de terrain. Donc ça peut être tout un pan de montagne qui part. Donc ça, ce sont les mouvements lents. Puis on a ce qu'on appelle des mouvements rapides. Donc c'est une propagation brutale et soudaine de blocs de pierre, de morceaux de falaises. Donc ça va être des chutes de pierre, des éboulements et des coulées boueuses. Alors par exemple, on peut avoir des falaises et des versants rocheux qui vont où les pierres vont partir et rouler dans la pente. Et puis, on peut avoir aussi des écroulements en masse de toute une partie d'une falaise. Donc ça, ce sont des mouvements rapides. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces phénomènes de mouvement de terrain, qu'ils soient lents ou rapides, peuvent engendrer un remodelage des paysages. Si vous avez la moitié d'une montagne, d'un flanc de montagne qui s'écroule, votre paysage n'est plus du tout le même. Ça peut aussi détruire des zones boisées. Ça peut réorganiser des cours d'eau. Si vous avez un gros glissement qui arrive dans un cours d'eau, le lit du cours d'eau va être dévié. Donc ça peut avoir des impacts assez importants sur le territoire.
Alors dites-nous, qu'est-ce qui peut déclencher ce mouvement de terrain ? C'est dû à quoi ?
Alors, on va avoir plusieurs facteurs qui vont déclencher les mouvements de terrain. En premier lieu, ce qui nous intéresse ici, on va avoir la sollicitation sismique. Donc quand on a un séisme, ça peut déclencher des mouvements de terrain. On a malheureusement l'action de l'homme qui, en faisant des terrassements impropres, en ne tenant pas compte d'un tas de facteurs, peut induire par son action aussi des mouvements de terrain. On a l'eau, la présence d'eau, les infiltrations d'eau dans des versants qui vont aussi produire des mouvements de terrain. Et puis, on a l'altération naturelle des sols. Les sols, pour dire ça un peu prosaïquement, les roches, les sols pourrissent avec le temps et deviennent moins compacts, moins stables et peuvent glisser naturellement.
Est-ce qu'en Guadeloupe, nous sommes concernés ?
Ah oui, et tout à fait. On va être concerné de façon diverse suivant où on se situe.
D'accord.
Donc on a les îles volcaniques comme la Basse-Terre,
oui.
Où les terrains s'altèrent fortement, ils vont subir des glissements parce qu'il va y avoir des pluies qui peuvent évoluer en coulées boueuses. On a des zones très escarpées, donc en Basse-Terre, ça va être des chutes de blocs sur Pointe-Noire, par exemple des choses comme ça, et des glissements de terrain. Et sur les îles calcaires, Grande-Terre, Marie-Galante, la Désirade, on a des falaises, des pentes très abruptes, sur lesquelles on a des blocs calcaires, et ces blocs calcaires peuvent dévaler la pente, peuvent tomber en bas d'un morne, peuvent les falaises, quand toutes les falaises qu'on a à gosier elle s'écroule petit à petit. Et quand on est en mer, on voit bien qu'il y a en mer, à proximité du pied des falaises, un tas de gros blocs rocheux. Ces blocs rocheux, ils ont pas tout le temps été en bas. Ils faisaient partie intégrante de la falaise. Ils se sont décrochés, ils sont tombés.
Alors dites-nous, donc, que ce soit du côté de Grande Terre ou encore du côté de Basse Terre, on est tous exposés en fait.
On est tous exposés.
D'accord.
Alors c'est sûr qu'il y a quelques secteurs où on ne sera pas exposés. En plein milieu de la plaine de Gripon, on ne va pas être exposé à des mouvements, à des glissements de terrain.
C'est clair.
Par contre, on peut avoir des phénomènes lents qui vont être des tassements dans ces terrains-là. Donc en fait, quasiment partout, on peut être exposé de façon diverse en fonction du type de glissement. Alors par exemple, quand on fait un petit recensement des phénomènes, on peut aller sur la base de données Géorisque, c'est une base de données gouvernementale. On se rend compte qu'on a 18 communes qui ont été concernées en Guadeloupe et il y a 92 phénomènes qui ont été recensés. Il y en a certainement beaucoup d'autres qui n'ont pas été recensés, mais ça a permis de recenser des phénomènes importants. Et alors, on a les phénomènes qui se sont produits à cause des séismes. Donc, on sait que lors du gros séisme de 1843, il y a eu des glissements de terrain, des coulées boueuses. Plus récemment, lors du séisme des Saintes en 2004, donc il y a 11 ans maintenant, on a eu plusieurs routes qui ont été coupées aux Saintes. On a eu des éboulements au niveau de la deuxième chute du Carbet. On a eu un éboulement sur la route montant à la Soufrière. Donc tous ces phénomènes-là ont encore des impacts maintenant, parce que la route n'a jamais réouvert pour monter à Savanes-à-Mulets. Et la deuxième chute du Carbet, on ne peut plus aller au niveau du bassin, parce qu'il y a encore des blocs qui peuvent être instables, qui ne sont pas tombés. Donc ces phénomènes-là de 2004, on en ressent toujours les conséquences actuellement. Et puis, à Capesterre-Belle, à Poirier, à Sainte-Marie et à Saint-Sauveur, on a des éboulements au niveau des falaises qui ont menacé directement des habitations. Donc on a des habitations maintenant qui se retrouvent très très proches du bord des falaises.
Dites-nous, Madame Touron, quand on voit certains professionnels venir, et je sais pas que ça n'a rien à voir, mais on pose quand même cette question, quand on voit certains professionnels qui viennent et qui brisent en fait la roche pour des terrains de tuf, est-ce que ça peut générer des glissements de terrain?
Alors, des glissements, non, mais des éboulements.
Des éboulements.
Ça va être... et du reste, alors c'est sûr que vous avez un grand talus subvertical, il paraît rocheux, il paraît stable sur le long terme, mais les calcaires vont s'altérer, donc il peut y avoir des petits blocs qui vont se détacher naturellement au fil du temps. Et puis, en cas de séisme, il peut y avoir des pans entiers qui vont se détacher, qui vont tomber. Et ça, ça a été vu sur des formations géologiques similaires lors du séisme à Haïti. Donc, ce qu'il faut faire quand on a terrassé comme ça, normalement, il ne faudrait pas construire sa maison à quelques mètres d'un talus très important. Il faudrait pouvoir la décaler de plusieurs mètres de façon à ce que, si le phénomène se produit, les chutes de roches tombent au pied de la falaise sans toucher la maison. Et si on construit très proche, il faudrait faire une protection sur la falaise.
Des fois, on voit qu'il y a plusieurs maisons et là, il y a une création, après bien sûr l'installation des différentes maisons, une installation d'un chantier. Donc les maisons, les bâtis étaient là avant.
Oui, mais les règles évoluent aussi. Donc, il y a 50 ans, une maison qui était construite, les règles parasismiques, parce que là, ça va être, on va prendre en compte des règles parasismiques, n'étaient pas du tout les mêmes que celles actuelles. Elles étaient moins contraignantes et puis elles n'étaient pas forcément appliquées. Donc, c'est sûr que par rapport à de l'existant ancien, on ne devrait plus construire maintenant de la même façon.
Très bien.
Donc pour en revenir, je vous ai cité des phénomènes qui se sont produits sous séisme. On a aussi des phénomènes de glissement qui se sont produits complètement indépendamment des séismes. Et on a eu notamment sur la RN1, alors c'était juste avant le séisme des Saintes, quelques jours avant le séisme des Saintes, il y a eu un important glissement du talus routier au niveau de Petit-Bourg, avec des masses de terre qui ont dévalé et qui ont obstrué les deux voies dans le sens Basse-Terre-Pointe-à-Pitre. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la route a été coupée pendant plusieurs semaines, le temps que le glissement soit dégagé, que le talus soit refait correctement et qu'on remette les glissières. Donc, et sur d'autres routes, notamment la route de la traversée, la RD23, ces dernières années, elle a été fermée plusieurs fois suite à des glissements et des éboulements qui ont déversé des masses considérables sur la route, obstruant complètement celle-ci. Donc ces phénomènes de glissement de terrain ont aussi un impact sur notre vie de tous les jours, parce que quand on a des axes routiers aussi importants que la RN1 ou que la RD23, la route de la traversée, qui sont coupés pendant plusieurs jours, ça embête tout le monde. On est obligé de faire un détour considérable, ça gêne l'activité économique. Donc tous ces phénomènes-là, ils ont un impact vraiment important. Même, heureusement, ils ont eu en Guadeloupe très peu d'impact sur les personnes, mais l'impact sur le réseau routier, l'impact sur l'économie n'est pas à négliger.
Tout à fait.
Et puis, pour parler aussi de... On a aussi des phénomènes qui se produisent quand il pleut beaucoup. Et pour parler de quelque chose d'actualité, lors de la tempête Irika, il y a encore quelques jours ou quelques semaines, on a vu en Dominique que cette tempête a causé d'énormes dommages. Elle a fait des glissements, des coulées boueuses, elle a coupé un tas d'axes routiers. Et c'est comme si l'économie de la Dominique était revenue 20 ans en arrière.
Tout à fait.
L'état de la Dominique, elle a perdu 20 ans de travaux, 20 ans d'aménagement du territoire. Donc là, c'est catastrophique.
Et est-ce qu'il y a des îles qui s'y prêtent?
Pas plus que la Guadeloupe.
Pas plus que
elle
la Guadeloupe,
d'accord. Elle n'est pas plus exposée que la Guadeloupe.
Et comment expliquer
autant? Simplement, lors du passage de la tempête Irika, elle a été plus forte quand elle est passée en Dominique. Et chez nous, elle était déjà... il y a eu plus de précipitations en Dominique. Alors, c'est sûr que c'est peut-être moins urbanisé. Donc, c'est des zones plus sauvages qui ont glissé. Mais ces mêmes phénomènes auraient pu aussi se produire quasiment en Guadeloupe. Et on voit bien, quand il y a eu des fortes précipitations en Guadeloupe, on a aussi eu des phénomènes de glissement. Donc nous, les pluies pour la tempête Irika en Guadeloupe, ça a plus été en grande terre. On les aurait eu en basse terre, on aurait eu aussi des phénomènes de glissement.
Donc vous dites en gros qu'elles ne s'y prêtaient pas. Donc toutes les îles, en fait, on va dire, ont le bon et le mauvais côté. Elles ne sont pas sujettes spécialement à ça, mais aussi ça.
Voilà. Il faut comparer la Dominique avec la basse terre en Guadeloupe.
D'accord, très bien.
Parce qu'elle a les mêmes caractéristiques que la partie basse terre.
D'accord.
Et en basse terre, on a aussi ce genre de phénomène. Comme je vous citais tout à l'heure, sur la RNA à Petit-Bourg, sur la route de la traversée, on a des éboulements. Sur la route qui va de Rivière-Sens à Vieux-Fort, il y a souvent aussi des éboulements. Donc, souvent.
Dès qu'il y a une précipitation.
C'est relatif,
voilà.
Mais
on se comprend.
C'est des phénomènes qu'on connaît ici.
D'accord.
Voilà un peu, on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait trouver en Guadeloupe. Donc, on voit qu'on est déjà bien cerné par ces mouvements. Donc là, on parle plutôt d'éboulements et de glissements de terrain. Mm-hmm. Après, on va aussi avoir comme autre phénomène qui rentre dans la catégorie des mouvements de terrain en général, tout ce qui va être tassement ou phénomène de retrait-gonflement. Donc ça, c'est des choses qu'on va plutôt avoir en grande terre. Des maisons qui sont construites sur des terrains argileux, avec des fondations qui ne sont pas bien dimensionnées, et on va avoir du tassement qui vont produire des fissurations dans les maisons. Donc ça rentre aussi dans la catégorie des mouvements de terrain. C'est lent, c'est pas spectaculaire parce que ça se produit très lentement, c'est à peine perceptible par l'homme, donc on va pas se rendre compte que ça tasse sous sa maison jusqu'au jour où les fissures vont apparaître.
Alors on va rebondir dessus parce que c'est un phénomène très courant dans le département. Bon, je vais peut-être anticiper, mais comment faire pour éviter ceci? Alors, avant de construire sa maison, y a-t-il obligatoirement une étude de sol à réaliser?
Alors, elle n'est pas obligatoire dans tous les cas. Elle est vivement recommandée. Si vous êtes... Alors, il y a les plans de prévention des risques naturels. On en avait déjà parlé la dernière fois. qui délimite des zones avec des aléas mouvement de terrain. Et si vous êtes dans une zone bleu clair d'aléas mouvement de terrain, vous devez faire une étude de sol pour vérifier quelle est l'exposition de votre projet au risque de chute de bloc ou de glissement. Est-ce que votre projet en lui-même risque d'induire des phénomènes? Est-ce que la surcharge que représente la maison que vous allez poser sur le terrain peut provoquer un glissement? Et si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour se prémunir? Donc, pour la catégorie chute de bloc, glissement de terrain, sur certaines zones des plans de prévention des risques naturels, l'étude de sol peut être obligatoire. Quand vous êtes sur un terrain plat, argileux, qui est en zone blanche du plan de prévention des risques naturels, vous n'avez pas d'obligation d'étude. Mais elle est cependant recommandée justement pour faire face à ces phénomènes, savoir est-ce qu'on est en présence d'argile qui peut s'assécher faire que les fondations ne seront plus portantes. Est-ce que les terrains ne sont pas trop mous pour construire? Vous voulez faire une grosse maison avec un étage, des combles et tout ça, mais elle est lourde, cette maison. Est-ce que les terrains sont assez porteurs pour pouvoir supporter la maison? Donc tout ça, le bureau d'études géotechniques peut apporter des réponses adaptées.
Dites-nous, Madame Thauron, quand on a un terrain argileux, asséché, on peut constater avec le temps, mais d'une façon très douce, lente, évolutive, des fissures.
Des fissures dans les constructions ou dans les terrains?
Dans les constructions. Quand vous parliez de fissures, vous parliez de fissures.
Alors, j'en parlais des fissures dans les constructions, mais on a aussi des fissures dans le sol qui se produisent. Mmh. Bon, une maison, quand on la construit, elle va forcément bouger un petit peu. Elle va se tasser un petit peu. Donc, on peut avoir des petites fissures qui ne sont pas dommageables pour la structure et qu'on peut considérer quasiment comme normales. Après, si vous avez des fissures qui sont importantes, qui continuent à s'écarter, qui sont traversantes, qui prennent toute l'épaisseur d'un mur, là, il faut commencer à s'inquiéter. Donc, ça peut être un défaut de la structure, avec des matériaux employés qui ne sont pas corrects, un ferraillage du béton qui n'est pas correct, ou ça peut être un défaut des fondations sur des sols qui n'ont pas la capacité de supporter la maison, où il aurait peut-être fallu faire des fondations plus importantes. Donc, des fissures qui apparaissent, elles peuvent avoir différentes causes. Donc, la première chose, c'est elles apparaissent sur la structure, d'abord de voir avec un ingénieur structure, et lui dira s'il faut aller faire des investigations plus poussées au niveau du sol.
D'accord. Dites-nous, on va continuer concernant la prévention, si vous êtes d'accord?
Oui.
Alors, comment éviter justement...
On va reparler un peu de ça, alors.
Alors, je vais formuler ma question. Comment éviter, se protéger de ce phénomène?
Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mouvements de grande ampleur, ils se produisent brutalement, ils sont tellement importants qu'on ne peut pas faire d'aménagement pour s'en prémunir. On ne peut pas bétonner tous les versants en disant je vais éviter comme ça d'avoir des glissements. Par contre, des phénomènes d'ampleur modérée, on peut faire des aménagements quand ils ont eu lieu pour les stabiliser, ou en faisant attention à la façon dont on terrasse et on construit. Donc on peut faire du préventif en respectant des règles de terrassement et des règles de construction, et on peut faire du curatif une fois que le glissement est là, qu'il est avéré. Eh bien, on va faire un mur de soutènement bien ancré, on va drainer à l'arrière du mur pour éviter que l'eau continue à pousser sur les terrains. On peut aussi faire attention à stabiliser les remblais quand on construit, en faisant une plateforme qui va être d'un côté en déblai, ça veut dire qu'on va avoir creusé dans les terrains, et de l'autre côté en remblai, ça veut dire que les terrains qu'on a creusés, on les pose à côté pour agrandir la plateforme. Ces remblais, il faut les faire correctement, il faut bien les compacter, il faut qu'ils aient une pente relativement douce, de façon à ce qu'ils ne soient pas déstabilisés. Donc on peut construire de façon à éviter ces glissements. Ensuite, si on a sur son terrain des blocs rocheux épars, on peut aussi surveiller ces blocs soi-même, aller regarder régulièrement, est-ce qu'il ne s'est pas un petit peu déplacé. Si on a des doutes, le plus simple, c'est de les purger. Si on enlève les blocs, on enlève le danger.
C'est-à-dire, comment les purger ? Aidez-nous.
Faire venir un tractopelle qui prend le bloc et qui le met dans un camion et qui l'emmène ailleurs. Mm-hmm. Si on enlève les petits blocs potentiellement instables sur le versant au-dessus de sa maison, on a enlevé la source même de l'instabilité.
Concernant l'aspect curatif, dites-nous, est-ce qu'il y a justement des primes, un accompagnement pour aider le...
Non.
Non, d'accord, très bien.
Non, parce que, pour donner un exemple, quand on est dans le parc naturel, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, il doit y avoir des blocs qui roulent, des petits glissements qui se font, etc. Ils sont dans la nature, ils impactent personne et ils posent pas de problème. Sur votre terrain privé, s'il n'y a pas de construction et que vous avez un glissement, ça ne pose pas de problème non plus. Votre terrain va être déformé, mais il ne va pas avoir de mise en danger. Donc, c'est le fait que vous construisiez qui va engendrer le risque. Il y a l'aléa, c'est le phénomène qui peut se produire, et le risque, c'est le fait d'être exposé à cet aléa. Donc, c'est bien votre décision de construire ou de faire un aménagement qui va faire que cet aménagement, il risque d'être exposé. Donc, ce n'est pas aux autorités à prendre ça en compte. Ça fait partie, c'est un coût à prendre en compte dans l'ensemble de son projet de construction.
Très bien. Merci en tout cas. Merci.
En tout cas, dans tous les cas, le recours à un professionnel est recommandé pour adapter la construction au terrain, à la pente du terrain, au potentiel phénomène de mouvement de terrain qui vont être soit des glissements, soit des chutes de blocs, soit du tassement. Donc ça fait partie de la logique d'un processus de construction. On met quelque chose sur un terrain, on vérifie avant si le terrain est stable et s'il peut supporter le projet.
D'accord. Alors on va poursuivre ou si vous désirez rajouter...
Voudrais revenir un tout petit peu sur les PPRN, parce que
pouvez-vous traduire
les plans de prévention des risques naturels. Une des possibilités pour se protéger des phénomènes, c'est aussi l'évitement. Donc évitement, ça veut dire qu'on va éviter d'aller construire là où il y a du danger. Et donc, les plans de prévention des risques naturels délimitent des zones constructibles sous réserve d'étude ou inconstructibles. Donc, il y a ces zones, elles sont rouges. Donc, si vous faites votre processus normal et un dépôt de permis de construire à la mairie en zone rouge, on va vous le refuser. Sauf qu'on sait qu'en Guadeloupe, il y a des gens qui vont construire d'abord et après qui vont régulariser autant que faire se peut leur situation auprès des services administratifs. Et là, s'ils ont construit dans une zone rouge, ils sont pas bien parce que...
Et qu'est-ce qui se passe pour eux ?
Ils n'auront aucune aide. On pourra même leur imposer de détruire ce qu'ils ont fait.
Voilà, tout à fait.
Et en tout cas, on peut aussi leur demander de ne pas habiter dans la construction qu'ils auront réalisée en zone rouge sans demander d'autorisation. Donc, consultez toujours les plans de prévention des risques naturels et les cartes de zonage auprès des services de l'urbanisme de votre mairie. Que ce soit un terrain que vous allez acquérir, que ce soit un terrain que vous ayez de famille. Alors, c'est sûr que peut-être les oncles, les tantes, les cousins, les cousines ont déjà tous construit, puis le seul endroit qui reste, ça sera peut-être un endroit qui sera en zone rouge où vous ne pourrez pas construire. Mais mieux vaut quand même s'assurer avant tout projet du plan de prévention des risques naturels et aussi du POS, c'est-à-dire plan d'occupation des sols, où maintenant ils sont transformés en PLU, donc plan local d'urbanisme, pour savoir si la zone où vous voulez que vous voulez construire est bien une zone urbanisable, parce qu'on a aussi des constructions qui se sont faites dans des zones agricoles, dans des zones naturelles, des zones protégées, alors qu'elles ne devraient pas être là.
Est-ce qu'on peut faire une parenthèse par rapport à ça? Comment expliquer qu'on ne puisse pas construire sur des zones agricoles alors que ces terrains sont vides et vagues et elles sont pas, pour l'instant, elles sont pas en travail, sont jachères?
Il faut préserver des surfaces agricoles, c'est primordial. Le gros souci des agriculteurs, c'est d'avoir du foncier disponible pour faire une activité agricole. Cette activité a tendance à diminuer, les surfaces réservées à l'agriculture diminuent, et on voit sous la pression de l'urbanisme, on voit de plus en plus, à Lamantin par exemple, des terrains qui étaient des champs de canne, qui sont déclassés, qui ne sont plus agricoles et qui deviennent des lotissements. Mais il faut aussi garder de la surface agricole. C'est quand même un secteur qui est important en Guadeloupe. Donc on ne peut pas, même s'ils ne sont pas exploités ou pas exploités temporairement, il faut essayer de préserver ces terrains agricoles. On en a besoin. Bon, là, on s'éloigne du sujet, mais il faut vraiment
faire ça.
Alors, par contre, un exploitant agricole, il peut construire sa maison et des bâtiments pour son exploitation sur un terrain agricole,
d'accord,
puisque c'est lié à son activité d'agriculteur.
D'accord.
Mais il ne peut pas construire une maison pour la mettre en location.
Très bien.
Ça doit être sa résidence principale.
Voilà, on ferme la parenthèse. Voilà, c'est dit. Alors, dites-nous, existe-t-il des systèmes d'alerte pour les mouvements de terrain?
Alors, non. Il n'en existe pas directement. Alors, pour ceux qui sont pas, enfin, pour les endroits qui sont pas connus, on n'a pas de système d'alerte qui va pouvoir nous prévenir, parce qu'ils surviennent sans prévenir lors de fortes pluies ou lors de séismes. Et comme on peut pas prévoir les séismes, on peut pas prévoir les glissements de terrain qui seront causés par les séismes. Par contre, sur les glissements qui sont identifiés, qui sont reconnus et qui sont étudiés, on peut mettre des systèmes de surveillance pour savoir s'il va être de nouveau mobilisé. Donc, sur l'île Sœur en Martinique, il y a eu des gros glissements de terrain. Ils sont instrumentés avec ce qu'on appelle des inclinomètres. Donc, on fait des forages, on met un tube et dedans, on a un petit capteur qui va mesurer l'inclinaison des sols. Et ça peut être lié à un système d'alarme. C'est-à-dire que si le sol, d'un seul coup, se met à s'incliner un peu trop, c'est-à-dire qu'il est en mouvement, on peut être averti que là, le glissement, il est en train de se réactiver. Donc, on peut instrumenter des glissements de connus et on peut aussi instrumenter, donc quand je dis instrumenter, c'est mettre des instruments de surveillance et de mesure, par exemple, de blocs potentiellement instables, de gros blocs qui vont menacer des installations. On peut mettre ce qu'on appelle des fissuromètres. Donc, on va mesurer l'écartement qu'il y a entre la paroi rocheuse et le bloc qui est prêt à se détacher. Et puis, si cet écartement, d'un seul coup, il augmente, pareil, on peut avoir des systèmes d'alerte qui vont envoyer des messages au géotechnicien sur son téléphone. Et il va pouvoir donner l'alerte en disant « Attention, là, il se passe quelque chose, évacuez la zone ». Donc, on peut, mais c'est toujours des choses qui ont déjà été identifiées au préalable et qu'on a décidé de surveiller parce qu'on n'a pas de solution directe pour réduire le risque. Donc, ce qu'on fait, on les surveille. Si ça bouge, on alarme et on évacue. Donc, ça, c'est possible.
Très bien. Donc, mis à part ça, on n'a rien comme système d'alerte.
Ben non. Alors, après, on peut faire du préventif, ce qui a été fait plusieurs fois sur la route de la traversée, en disant à l'arrivée d'une onde tropicale où les météorologues prévoyaient de fortes précipitations. Plusieurs fois, la route de la traversée a été fermée de façon préventive pour dire on empêche la circulation. Comme ça, s'il se produit quelque chose, on n'aura aucune voiture qui risque d'être prise dans le glissement. Mais c'est quand même très contraignant parce que du coup, on ferme un axe routier et puis il ne va peut-être rien se passer du tout. Mais s'il se passe quelque chose, au moins, on aura évité des dégâts. Donc, c'est vrai que récemment, ça fait un bout de temps qu'elle n'a pas été fermée de façon préventive. Donc, tout est une question d'évaluation. Est-ce que la tempête qui va arriver va être très forte? Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de pluie? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on décide de fermer? Est-ce qu'on décide de ne pas fermer? C'est des décisions qui rejoignent en même temps le technique et en même temps le politique. Voyez, parce que fermer un axe routier, c'est pas anodin.
Tout à fait. Alors, on arrive quasiment à la fin de notre entretien. Madame Thoron-Florence, auriez-vous une synthèse, une conclusion à faire peut-être?
Soyez vigilants et ayez du bon sens. C'est surtout ça. Il y a plein de choses. Construire au ras d'une falaise, c'est un manque de bon sens parce qu'on peut bien se douter que ce qui paraît stable sur 1 ou 2 ans, et ben sur 10 ans ou 20 ans, ça va plus forcément être stable. Et quand on construit, ben on construit, c'est un projet d'une vie, ça, et on construit pour des dizaines d'années. Être attentif à la morphologie d'un terrain. Quand on achète un terrain, regardez s'il a beaucoup de pentes, s'il paraît déformé. Tout ça, ça doit être des choses qui doivent vous alarmer quelque part et vous dire, faites venir quelqu'un avant d'acquérir un terrain pour vérifier qu'il va être stable. Et puis, parce qu'une fois que vous avez dépensé des dizaines de milliers d'euros pour acheter votre terrain, et qu'on vous dit, ben, pour faire votre construction, il va falloir que vous déboursiez en plus de ce que vous avez prévu, encore des dizaines de milliers d'euros pour faire un mur de soutènement, ou pour faire ceci, ou pour faire cela, ça ne va plus rentrer dans votre budget. Donc, il faut prévoir, il faut anticiper, et ne pas hésiter à faire venir les professionnels.
Voilà, on vous remercie pleinement, Madame Thoron-Florence. À prévenir vaut mieux que guérir, vous le faites. Vous passez votre temps aussi à prévenir, à donner des pistes qui sauront aider les différents auditeurs. Merci beaucoup et on vous retrouve prochainement.
D'accord, merci. Au revoir.
Espoir pour une meilleure approche de l'existence.